Alors, j'ai répampé les fils et par rapport à ces indicateurs d'intersubjectivité. Alors, la conceptualisation des indicateurs d'intersubjectivité se situe dans ce que Victor Guerra lui-même appelait les complexes de l'archaïque. Et c'est-à-dire, je pense qu'on va y revenir, une des particularités des travaux de Victor, comme disait Marcelo Vignard, c'est de se situer aux origines de la vie psychique, ou cet intérêt pour quelque chose qui apparaît dans la vie psychique, avec toutes ses possibilités, et qu'il appelait, lui, les complexes de l'archaïque. Alors, pour les fonder dans les livres, pour ceux qui l'ont dans les mains peuvent constater, il y a l'intersubjectivité et le rythme. Et les deux premiers chapitres du livre comportent un sur l'intersubjectivité et un autre sur le rythme. Alors, pour situer l'archaïque, Victor s'inspire de la définition que propose Anne Brun, qui reprend une double acception du terme archaïque dans l'étymologie, à la fois commencement, quelque chose qui a commencé quelque part, et à la fois principe, comme principe de fonctionnement. L'archaïque correspond donc à la fois à une relation première entre l'enfant et son environnement, un commencement, quelque chose qui a pris un commencement à un moment donné, mais quelque chose qui est réactualisé dans la relation thérapeutique, par exemple, dans la relation soignante, qui la remet en chantier en tant que principe des liens, en tant que principe de la relation entre les patients et l'analyste. Et les complexes d'archaïque, comme propose de l'appeler Victor, ça ne réfère pas donc uniquement à la réalité du bébé, mais à une dimension du psychisme qui reste présente tout au long de la vie. Elle ne se résume pas, ne se réduit pas à l'expérience du bébé. Anne Brun ajoute que dans la perspective freudienne, l'archaïque pourrait se définir comme l'enregistrement de ce que Freud appelle les traces mnésiques perceptives. Elle pourrait correspondre aussi, ces traces mnésiques perceptives, à ce que Freud a appelé aussi les représentations choses, qui par la suite ont été différemment caractérisées comme des signifiants formels par un yeux, comme des signifiants de démarcation par Rosolato, comme les pictogrammes par Pierrot Lanier, comme des proto-représentations par Pinol Duriez, et que René Roussillon propose de désigner par les termes génériques des symbolisations premières. Les symbolisations premières se différencient des symbolisations dites secondaires et parce qu'elles engagent davantage les corps, parce qu'elles sont davantage, je dirais, personnelles et sont plus difficilement partageables et comportent aussi un trésor interne des sensations, des représentations, des symbolisations premières. Dans son ouvrage, après avoir exposé en détail chacun des indicateurs d'intersubjectivité, Victor propose aussi deux notions qui lui sont propres. C'est l'objet tuteur, qui va apparaître comme un des indicateurs d'intersubjectivité, et les faux self-moteurs, qui est aussi une présentation tout à fait originale de la part de Victor, c'est-à-dire une manière de parler des enfants qui se présentent dans la hyperactivité, et qui est une manière de l'enfant de créer un faux self qui n'est pas un faux self intellectuel, comme disait Winnicott, mais qui est un faux self corporel. Pour aller vite, pour résumer cette idée, c'est que les mouvements pour l'enfant font fonction des mères, et qu'être un mouvement pour l'enfant, les faux pour l'enfant, c'est de penser que c'est la mère qui est dans les mouvements. Alors, le travail du livre s'est conclu par une réflexion approfondie sur la fonction du complexe de l'archaïque dans l'abord des pathologies contemporaines. Je pense que jusqu'à la fin, et je pense que c'était un des derniers soucis de Victor, de pouvoir dire que ces indicateurs d'intersubjectivité ne sont pas pertinents uniquement pour être auprès des bébés, pour comprendre la vie des bébés, mais pour comprendre aussi l'apparition de certaines formes de psychopathologies très sévères comme les troubles dans les spectres de l'autisme. Il pense aussi que cette question d'intersubjectivité, pour lui, c'est à la fin dont il parle dans son chapitre, dans les derniers chapitres de son livre, que cette expérience intersubjective archaïque est présente, bien entendu aussi, de la part de l'analyste dans la relation transfert contre transfert. Pour finir, je dirais l'aspect introduction. On est en train de s'introduire à la journée avant d'entrer plus dans les fonds de la pensée. Et comme disait aussi Marcelo, la composition du livre a une histoire propre. Et elle témoigne aussi de la reconnaissance et de la gratitude pour tout ce que Victor nous a apporté. Et je pense que c'était important de rendre public ses travaux. Donc, comme on disait tout à l'heure, Victor avait presque finalisé sa thèse au moment où il est décédé. Mais nous nous sommes retrouvés avec un travail qui n'était pas complètement terminé, avec une table des matières qui avait été remaniée plusieurs fois, des chapitres qui étaient rédigés dans des versions disparates. Certaines étaient déjà traduites au français, d'autres étaient rédigées uniquement en espagnol, d'autres encore étaient à moitié traduites, d'autres chapitres étaient traduits dans une première version, mais Victor avait rajouté un nombre important de notes en espagnol. Et d'autres notes étaient ajoutées à la fin d'un chapitre en disant ou en ayant l'idée de les remanier le chapitre en tenant compte de ces notes. C'est avec ça que nous nous sommes retrouvés. Et nous avons constitué une équipe de travail internationale qui était composée, je tiens à rendre hommage à des collègues, c'est-à-dire que la production de ces livres est aussi un travail collectif. Victor aimait beaucoup travailler en groupe. Et c'était quelqu'un qui était très collectif dans sa manière de travailler. Et je pense que dans la composition des livres, on a reconstruit quelque chose, un groupe autour de lui. En Uruguay, on travaillait Laura Klein, qui s'est occupée essentiellement de la traduction et qui est ici présente. Il y a Claudia Ravera, qui était collègue de travail orthophoniste et qu'on va voir apparaître dans les films tout à l'heure. Et Patricia Singer, qui ont travaillé pour rassembler les textes. Au Brésil, Carla Brass-Metzner a aussi travaillé pour rassembler et délimiter les textes du livre. Alors, les textes comportent, j'oublie pas Jacqueline, je vais y arriver. Alors, les textes comportent inévitablement des imperfections. Par exemple, nous n'avons jamais trouvé les fichiers du chapitre 6 mentionnés dans quelques versions de la table des matières, mais que personne n'a trouvé ces chapitres. Et Carla Brass, et Claudia Ravera et Patricia Singer ont mis en forme certaines notes qui figuraient à la fin du chapitre 1. Les chapitres 2, je dis ça parce que vous avez certains d'entre vous les livres entre les mains, sur le rythme, je pense que Victor aurait souhaité les problématiser davantage. Je pense qu'il y a une espèce de présentation, de succession de présentations, mais je pense que s'il avait eu le temps, il aurait un peu, je dirais, articulé davantage les textes qu'il présentait. Et puis, il faut bien dire que dans la traduction du français, on entend encore l'accent de l'espagnol originel du texte. Donc j'espère que vous serez suffisamment complaisant avec cette version. Mais il y a un auteur que Victor, je vais reparler encore, et un poète brésilien que Victor aimait beaucoup, qui s'appelle Manuel de Barros, qui était un lien d'inspiration important pour Victor. Lui, il disait, je vais le dire d'abord en portugais, les collègues brésiliens vont me pardonner, il disait, « A maior riqueza do homem é sua incompletude. » Je m'excuse pour l'accent. En français, la richesse majeure primordiale de l'homme, dans le sens de l'être humain, est son incomplétude. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des incomplétudes, des imperfections dans cet ouvrage, mais je pense que c'est important et c'est peut-être aussi sa richesse. Alors, une fois les textes circonscrits, nous nous sommes occupés avec Laura Klang de traduire en français les passages et les chapitres qui étaient encore en espagnol. Et Laura Klang témoigne aussi de son amitié pour Victor en étant présente aujourd'hui ici. C'est Laura aussi qui a fait l'essentiel de la traduction de la vidéo. Et surtout, à cette occasion, je tiens à remercier vivement, je pense que c'est important, ces moments publics, Frédéric Banzé et Anne Brun, toutes les deux psychologues, psychanalystes et professeurs de lettres. Elles ont lu et corrigé ces deux premières versions du texte de Victor en français avec une patience et une attention infinie. Il faut dire pour la petite histoire qu'ils ont sacrifié une bonne partie de leurs vacances pour faire ce travail et pour nous permettre d'avoir ce texte entre nos mains aujourd'hui. Alors parallèlement à ce travail, et je reviens à Jacqueline, parallèlement à ce travail sur le texte, nous devions surmonter une tâche infinie à propos de la bibliographie. Victor était un lecteur infatigable. Ses références étaient dignes d'une bibliographie infinie, comme dirait Borges, digne d'une bibliographie des bibliothèques des Babel. Mais dans son texte, nous avons retrouvé des citations tronquées. Il y avait des dates, et il y avait parfois des années, mais on ne connaissait pas les éditions auxquelles Victor s'est référé. Alors, on doit remercier Jacqueline Mulisch, qui à Porto Alegre a établi une première compilation exhaustive de cette référence bibliographique de Victor qui nous ont permis de compléter ce travail sur le texte. Et Jacqueline aussi est là aujourd'hui, je tiens absolument à la remercier et pour le travail qu'elle a fait pour la bibliographie et aussi d'être présente avec nous du Brésil pour nous accompagner cette journée. Alors, on va entrer peut-être un tout petit peu plus dans la pensée de Victor, peut-être on va aller un tout petit peu plus loin. Alors, je propose encore de lui donner la parole, encore dans le site d'Epsinem. Et il y a une présentation de Victor dans la lettre P comme poésie, où il évoque les souvenirs infantiles des deux poètes. Et je pense que pour lui, les bébés sont une source d'inspiration, mais les poètes aussi sont une source inépuisable d'inspiration. Donc, je vais les présenter. C'est encore dans le site d'Epsinem.
En association libre, le premier mot qui me vient, c'est poésie et printemps. Poésie, parce qu'elle a à voir avec cette démarche difficile, presque impossible, de rendre compte de quelque chose d'ineffable de l'humain et qui a à voir avec les émotions. La poésie est pour moi une expérience très féconde comme instrument de connaissance de l'infant. Je suis très influencé par Pontalis et Gomez Mangos, un contemporain uruguayen qui a beaucoup écrit là-dessus. Je pense que lorsque l'on travaille dans le champ de la petite enfance, on a le privilège d'assister à la naissance de la pensée, de l'intersubjectivité, de la rencontre humaine. Parfois, la parole ne suffit pas pour comprendre ce qui se passe et l'on cherche avec nos théories des réponses à cette énigme. Heureusement, l'énigme n'est jamais totalement résolue et nous continuons de chercher. Je pense que parfois, les poètes s'approchent plus que nous autres. La poésie n'est pas simplement une expérience, un plaisir esthétique, c'est aussi l'espérance de comprendre la pensée humaine.
Sino que la poesía es también la esperanza de conocer.
Il y a un poème de Borges qui me touche beaucoup. À plus de 80 ans, dans une de ses dernières conférences, qu'il a appelé le credo du poète, il y a deux temps forts. Il se demande d'où me vient la poésie. Borges raconte l'expérience quand il était petit garçon et que sans comprendre la langue, il écoutait son père déclamer en anglais Ode au Rossignol de John Keats. Il évoque une après-midi à Buenos Aires où son père, passionné, disait à voix haute les vers de John Keats. Et Borges, à 80 ans, se met à dire de mémoire le poème en anglais. Il explique qu'il ne comprenait pas le sens des mots, mais qu'il chantait l'émotion, et dans la passion de son père, il dit qu'il a trouvé les racines de sa poésie. Borges nous dit qu'il y a une beauté qui se trouve dans la musique de la voix. La poésie, entre autres choses, c'est le rythme. C'est la musique liée aux mots qui porte les émotions. Pour être équilibré, je vais parler maintenant d'une mère. Une autre poétesse argentine, Diana Velesi, qui a écrit un conte, un poème, où elle parle aussi de l'enfant. Et elle dit « J'ai un souvenir merveilleux. J'avais 2 ans. Je pense que le printemps approchait. Ma mère me prend dans ses bras et m'amène au fond de notre jardin. Elle me montre et me fait sentir l'odeur des pruniers, la couleur des roses, la rugosité de l'écorce, des arbres. Et elle me dit, tu vois, ma petite Diane, ça c'est le printemps. Et Diana Velesi dit, il y a quelque chose qui s'est illuminé en moi et de ce moment, je suis devenu poète. Que nous dit cette femme? Que cette maman, qui est aussi une métaphore, lui transmet, lui présente le monde qui l'entoure d'une manière plurisensorielle, puis ensuite avec les mots. C'est le passage de la sensorialité au mot, et dans ce voyage, dans cette représentation du monde, il y a quelque chose d'esthétique. Quand je dis esthétique, c'est au sens d'Henri Maldiné, le philosophe, qui dit qu'il n'y a pas d'esthétique sans rythme et pas de rythme sans esthétique. Et l'esthétique au sens de esthésis des Grecs, qui veut dire la discipline des sens. Alors, qu'a à voir le poétique avec le bébé, hein, c'est ils se trouvent tous les deux à la racine de l'expérience sensorielle et rythmique. Alors, je terminerai avec un grand poète, Baudelaire, dans Les Correspondances. Hein, qui fait les correspondances donc entre des couleurs et les formes. Il parle d'odeurs qui sont comme des prés. Hein. Et beaucoup d'auteurs comme Daniel Stern prennent cela comme exemple de la transmodalité. La transmodalité est une expérience inhérente au bébé depuis le début de sa vie qui peut se poursuivre au-delà. La poésie a à voir avec le bébé, en ce sens que ses racines tournent autour d'une recherche de la rythmicité et de la sensorialité des mots. Le poète travaille les mots comme un artisan. Comme un artisan travaille un objet. Et je terminerai avec un grand poète qui m'inspire beaucoup, Manuel de Barros, un jeune poète de 90 ans, originaire du Pantanal, au Brésil, et qui a écrit quelque chose sur ça. Il dit que toute sa poésie est sur l'enfance. L'enfance de la langue, c'est l'origine, quand les mots commençaient à marcher. La poésie de Manuel de Barros tourne autour du thème de la transmodalité. Il dit par exemple, un lézard peut-il lécher la face bleue du silence? Pour terminer, il a écrit un livre qui s'appelle Mémoire d'enfance. Et il dit que seulement 10% de ce qu'il raconte sont des mensonges. Le reste, c'est une invention. Entonces él cuenta... Il, un jour, il a vu des hommes agenouillés sur le sol qui brossaient des os pendant des heures. Il ne comprenait pas pourquoi ces hommes passaient tant de temps à brosser des os. Quelqu'un lui a expliqué que ces hommes étaient des archéologues et qu'ils brossaient les os par amour de l'histoire. Parce qu'en les brossant, ils allaient leur raconter l'histoire de ce qui était arrivé dans le passé.
Alguien me dijo después que esos hombres eran arqueólogos y que se pillaban huesos por amor.
Et Emmanuel de Barros a eu l'idée de brosser des mots pour qu'en sorte des mots, le sens premier des mots. Pour moi, c'est ça la poésie. Et nous, nous brossons notre expérience avec les bébés pour retrouver ainsi nos expériences primaires et qu'elles nous apprennent plus sur la sensorialité et la vie psychique du bébé.
Alors, quelques mots. Et chez Borges, des sons, des sonorités, de l'anglais qu'il ne comprend pas. Ça aurait pu être espagnol aussi, mais peut-être il n'aurait pas compris non plus. Mais deviennent pour lui ce qu'on appelait les traces sensorielles, qui, comme des symbolisations premières, restent toujours présentes en arrière-plan pour lui et qui se trouvent à l'origine de son inspiration. Mais ces mots de l'anglais qu'il ne comprenait pas, c'est la musique, c'est la sonorité, c'est pas uniquement l'essence sémantique que les mots pouvaient avoir. Et c'est le témoignage d'une présence permanente de cette forme première de symbolisation. Chez Diana Bellesi, la source de son activité poétique est constituée par cette expérience polysensorielle dès la découverte du printemps par sa mère. Chez Victor, l'infance, la poésie et la psychanalyse sont étroitement liées. Comme je disais tout à l'heure, Victor lui-même ne se prive pas de s'exprimer poétiquement. Dans ses documents « Paix comme poésie », il rend hommage à des personnes qui, à la fin de sa vie, il continuait à découvrir, qui sont Edmundo Gomez Mango, psychanalyste d'origine uruguayenne vivant actuellement à Paris, et Jean-Bernard Pontalis, dans leur référence à l'infance. Les voix de l'enfance, ou plutôt comme chez Borges, les sonorités de l'enfance, c'est plus des sonorités, c'est des voix, vont constituer les trésors les plus importants qu'on puisse posséder. Dans ses documents aussi sur Psinem, Victor évoque Manuel de Barros, poète brésilien dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Victor entretient une histoire très particulière avec lui. Et Victor a rédigé un texte particulièrement intime, je dirais peut-être un des textes les plus intimes de sa vie, d'une poésie extraordinaire. C'est un texte qui s'appelle « Poésie et psychanalyse, Manuel et Victor, rencontre des voix de l'enfance ». Dans ce texte, Victor évoque comment, à travers la rencontre avec la poésie d'Emmanuel de Barros, il retrouve sa propre enfance. Et comment, à partir de la lecture de cette poésie, il se révèle à lui-même. À ce moment-là, il évoque cette réalité qu'a évoquée Marcelo tout à l'heure, les pavés de la rue de son quartier, les ballons de foot qui roulaient dans la rue sur les bitumes, les papillons qui envahissaient la rue au printemps, les pissenlits qui cherchaient les souffles de l'air, la lumière de la lune qui baignait la maison dans les nuits d'été, les cris des enfants qui jouaient à cache-cache. Dans ses dialogues avec Manuel de Barros, Victor retrouve cette épicerie bistrot qui appartenait à son père, El Boliche, et il y avait toutes sortes de personnages qui ont constitué un peu sa communauté à lui. Il est dit, je vais dire les mots, El Tano Julio, El Macho Herrera, El Diputado, El Gallego Francisco, El Flaco Pantera, et d'autres encore. Pour Victor, il dit que ces personnages qui ont peuplé son enfance ont bercé son enfance et aussi ont été les gardiens aussi bien de ses joies que de ses abîmes. Alors par rapport à ceux qui ne connaissent pas et qui pourraient donner envie de lire un peu Manuel de Barros, je dirais quelques formulations qui, on peut dire, sont des classiques chez lui. Je m'excuse auprès des collègues brésiliens à nouveau. Quelques-unes. Il dit par exemple « Tout ce que non invento est falso », dit Manuel de Barros. « Tout ce que je n'invente pas est faux. » Après, il disait des choses comme « Hay muchas maneras serias de no decir nada, mas solo poesía verdadera. » Il y a plusieurs manières de ne rien dire, mais seulement la poésie est vraie. Para palpar las intimidades del mundo es preciso saber que el splendor de mañana no se abre con faca. Pour palper les intimités du monde, il faut savoir que la splendeur du matin ne s'ouvrait pas avec un couteau. Et puis, c'est-à-dire que pour Manuel de Barros, et c'est là où s'inspire aussi Victor, les mots contiennent des souvenirs. Ils sont comme des coquilles. C'est une image de Manuel de Barros. Les mots sont comme des coquilles que quand on les écoute, on n'écoute pas la mer, mais on écoute des voix anciennes. D'après Victor, aussi bien les poètes que les psychanalystes cherchent à trouver les origines des mots. Comme disait Victor lui-même, d'une manière très poétique, on cherche les mots à l'époque où il s'est déplacé à quatre pattes, avant même qu'il se mette debout et commence à marcher tout seul. D'où, d'après lui aussi, son intérêt pour le travail pour les enfants, de voir comment ces mots prennent naissance dans la vie de l'enfant. À propos des mots d'enfants, et peut-être un peu pour conclure, et quelques mots de Manuel de Barros par rapport aux mots des enfants. Il dit, je m'excuse encore, « O delirio do verbo estava no comenzo, là, onde a criança diz Eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. Ce qui peut être plus ou moins traduit comme Au commencement était le délire. Au commencement du verbe était le délire. Quand l'enfant dit « J'entends la couleur des petits oiseaux », l'enfant ne sait pas que le verbe « entendre » ne convient pas à la couleur, mais au son. Alors, si l'enfant change la fonction d'un verbe, il délire. Voilà. En poésie, qui est la voix du poète, la voix des engendrements, le verbe aussi doit avoir le délire. Voilà. C'est-à-dire que on est dans une place un peu paradoxale aussi bien pour Manuel de Barros que pour Victor, la position de la parole chez les poètes et chez les psychanalystes. La poésie est nécessaire pour faire exister l'infance, ce qui n'avait pas de langage, ce qui ne parlait pas, ce qui est justement en dehors de l'ordre de la parole. Et les paradoxes de la poésie est de dire en parole ses propres limites et démontrer l'immensité des mondes qui s'ouvrent sur ses rives. Victor propose « Le travail avec l'infance est un travail avec les limites du langage, ce qui m'aide à m'égarer de moi-même, et c'est de là que je me retrouve au mieux. Je m'exile de la pensée oppressante et m'immerge dans le monde des premières sensations, difficilement transmissibles avec les mots. » Manuel de Barros encore dit « Uso a palabra para compor meus silencios. » Et en français, « J'utilise les mots pour composer mes silences. » La parole s'avère nécessaire non seulement pour symboliser la vie psychique, mais aussi pour faire exister ce qui est irrémédiablement exilé d'elle. Alors, pour commémorer cette relation entre Victor Guerra et Manuel de Barros, Nous avons sollicité Marta Barros, fille d'Emmanuel de Barros, pour illustrer les livres et la journée. Cette illustration est d'Emmanuel de Barros, de Marta de Barros, la fille d'Emmanuel de Barros. Elle a bien sûr généreusement accepté de mettre à notre disposition l'une de ses œuvres. Elle s'appelle Poético Uno. Et on la remercie vivement. Si vous êtes curieux de connaître d'autres œuvres, en marquant son nom Marta Barros sur Google, vous allez trouver un site où vous avez une immensité de poésie, des couleurs, des joies, des gaietés. Et je pense que ça fait partie de quelque chose qui rappelle une enfance joyeuse et poète et créatrice. Alors pour finir, en ce qui me concerne, Manuel de Barros fait revivre l'enfance à Victor. Et lui, il a fait revivre la mienne. D'où mon émotion et d'où et tout ce que j'ai pu mettre dans ce travail, de faire vivre les travaux, l'œuvre de Victor sous forme des livres et à travers cette journée. Alors, merci encore Victor pour tout ce que tu nous as apporté. Nous sommes tout fiers et contents de pouvoir le porter. Voilà.